passer les portiques de sécurité d'un aéroport en cette période de crise sanitaire pour se diriger vers la zone d'embarquement serait une promenade de santé en comparaison de l'expédition que nous nous préparons à vivre ensemble. Bagages de fortune et passeport en main, je vous invite aujourd'hui dans les destinations les plus exotiques qui soient, mais aussi et sûrement les plus sinistres et reculées que le cerveau humain n'a jamais imaginées jusque-là. Car c'est pour l'heure tout le sujet de cet épisode, s'engouffrer dans les confins urbains de l'imaginaire. Sur place, point de surpopulation touristique massée sur plages ensoleillées, mais bien dépeuplements et décrépitudes, verticalité et souterrainisme, citadins hallucinés et dédales infernaux. Pour notre départ en vacances, remarquez toutefois cet avantage. Dans les ténèbres, nul besoin de crème solaire.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur les courbes graciles. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, nous nous étions penchés sur la thématique de la ville à l'aide de références poétiques et romanesques, communément considérées comme des classiques. Les œuvres que nous avions évoquées se situaient principalement entre le 19e et le 20e siècle. Balzac, Baudelaire, Brecht et leurs amis nous avaient accompagnés dans notre recherche et nous avions ainsi tenté de pénétrer les villes qui peuplent leur littérature. Hostile aux fascinantes, la ville restait néanmoins dans le giron du réel. Une réflexion s'est toutefois imposée à moi. Comment rendre compte de la ville sans explorer les littératures de l'imaginaire, lieu de liberté littéraire totale? J'ai donc décidé de sortir de ma zone de confort et de prendre mon bâton de pèlerin pour explorer des horizons inconnus pour moi. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode, consacré cette fois aux villes imaginaires. Pour ce faire, et peut-être aussi pour vous aider à choisir votre prochaine destination de vacances, qui sait, je vous propose de naviguer à travers mon guide touristique des plus belles villes littéraires à visiter. Bien évidemment, oubliez Paris, Berlin ou Bruxelles, et venez visiter Midiane, La Monade 116, Macon Heights ou encore Arkham. Je vous préviens tout de suite, entre villes souterraines, verticales, dystopiques et autres joyeusetés, vous n'aurez plus que l'embarras du choix. Pour commencer, et si vous êtes comme moi, un peu novice en la matière, vous vous demanderez sûrement où l'on peut trouver ces fameuses villes, bien souvent introuvables sur une carte, et ce à quoi elles peuvent ressembler. Eh bien, nous les trouverons dans cette vaste catégorie qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. C'est un ensemble de genres littéraires qui ont pour point commun de faire évoluer le récit dans un univers entièrement façonné par leur auteur. On associe généralement à cela le fantastique, la fantasy, la science-fiction et l'anticipation. À noter que ces sous-genres peuvent être voisins, leurs frontières sont poreuses. Il est donc parfois difficile de les distinguer clairement. Anne Besson, spécialiste de la fantasy, estime que la science-fiction se distingue par sa rationalité affichée, celle du paradigme scientifique, quand fantastique et fantasy s'ancrent explicitement dans le surnaturel. Le fantastique, comme l'écrit Tsvetan Todorov, critique littéraire, se définirait précisément par l'hésitation que laissent planer les textes qui s'y rattachent entre deux interprétations possibles, l'une réaliste et l'autre surnaturelle. Vous l'aurez compris, c'est dans ce riche vivier littéraire que nous allons voyager pour trouver nos villes, mais comment les distinguer? Pour répondre à cela, revenons tout d'abord aux fondamentaux. La ville est en principe un lieu dont les contours géographiques sont bien définis. C'est le lieu de la civilisation et de la culture par excellence, un lieu où une forme de vie moderne peut s'exercer. C'est un accomplissement proprement humain. Selon Aristote, une cité est un regroupement de plusieurs villages, constituant une communauté de vie heureuse, dont la fin est une vie parfaite et autarcique. Comme vous pouvez vous en douter, les villes que nous allons visiter vont largement s'éloigner de ce modèle de vie heureuse. nous verrons comment leurs décors urbains vont nous permettre de questionner le réel, notre rapport à la ville et parfois d'exacerber nos craintes. Mais cela pourra également être l'occasion d'une expérience intellectuelle pour penser le futur de nos villes à l'aune des avancées technologiques. Pour explorer cette thématique, intéressons-nous avant tout aux œuvres de H.P. Lovecraft, Clive Barker, Philip K. Dick, Robert Silverberg et Catherine Dufour. Bien sûr, nous aurions pu évoquer bien d'autres œuvres, mais ce sont celles-ci que j'ai choisi d'approfondir avec vous aujourd'hui. C'est donc ici que je vous invite, avant de nous engouffrer sur les voies sinueuses de notre itinéraire, à prendre une tasse de thé et à vous munir d'un plaid pour vous réchauffer, car nous partons dès à présent à la découverte de lieux littéraires obscurs et inquiétants. Nous allons commencer notre périple par la visite des villes qui présentent une apparence de réalité dans l'univers de l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft. La majeure partie de ses récits s'inscrivent dans une cartographie connue et identifiée, avec des villes souvent situées en Nouvelle-Angleterre, la ville natale de l'auteur, qu'il appréciait tout particulièrement. On y retrouve notamment Boston, Providence et Salem, des villes qu'il a bien connues et qu'il décrit avec précision. À cela s'ajoute un réseau secondaire de lieux entièrement fictifs, tels que Arkham ou Dunwich, pour ne citer qu'eux. On sent que le décor urbain est l'endroit où l'auteur cristallise véritablement les angoisses et les tensions. À la lecture de certaines de ses œuvres, comme Celui qui hantait les ténèbres ou La musique d'Eric Zahn, on constate qu'il a tendance à scinder l'espace urbain en deux, avec d'un côté les quartiers propres et sains, et de l'autre les quartiers inquiétants, corrompus et infréquentables, composé de maisons bizarroïdes où les passants se font secrètement surveiller. Malgré ce côté angoissant, ces quartiers conservent bien souvent une apparence de neutralité. C'est souvent à la tombée de la nuit qu'ils se métamorphosent et deviennent menaçants. Ils deviennent alors la voie d'accès vers une autre réalité. Confidentielle et ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. On accède généralement à ces lieux grâce à des trappes, des caves humides ou des escaliers biscornus. On constate une forme de brouillage, caractéristique de l'univers de Lovecraft. Le réel disparaît peu à peu, sans prévenir, jusqu'à devenir flou. C'est le cas notamment dans la nouvelle fantastique « Celui qui hantait les ténèbres », publiée en 1936 dans la revue Pulp « Weird Tales », un genre de magazine bon marché et populaire aux États-Unis pendant la première moitié du XXe siècle. Dans cette nouvelle de Lovecraft, on retrouve la ville de Providence, que l'on a évoquée tout à l'heure, qui contient principalement deux quartiers, l'un historique, préservé, culturellement riche, et l'autre répugnant, mal fréquenté et composé de minorités. On retrouve bien entendu ici les préoccupations xénophobes de l'auteur. La ville elle-même, dans ce contexte, dégage des énergies maléfiques et négatives. Pour autant, les héros lovecraftiens restent attirés par les quartiers inquiétants de leur ville, et ressentent pour cela même une forme de fascination. Dans la nouvelle que j'ai citée, le héros, Blake, un écrivain solitaire, est mystérieusement happé par une église abandonnée qui semble lorgner par l'interstice de sa fenêtre. Une force occulte le pousse à explorer la ville pour s'y rendre. Mais cet endroit paraît inaccessible. Existe-t-il vraiment, ou est-ce le fruit de son imagination? Je vous propose d'écouter un extrait de cette nouvelle.
Au crépuscule, il restait souvent assis à sa table de travail pour contempler rêveusement le spectacle offert à sa vue. Les tours sombres de Memorial Hall, le beffroi du palais de justice, la hauteur spectrale de Federal Hill, qui stimulait si fort son imagination. Ses voisins lui avaient appris que c'était un quartier italien, et de temps à autre, il braquait ses jumelles de campagne sur cet univers lointain en se demandant quel mystère il pouvait bien renfermer. Il avait l'impression de regarder un monde fabuleux, très différent du nôtre, semblable à ceux de ses nouvelles et de ses tableaux. Une énorme église aux murs sombres exerçait sur lui une attraction particulière. Elle se détachait très nettement à certaines heures de la journée, et, au crépuscule, le grand clocher pointu dressait sa masse noire sur le ciel flamboyant. Elle devait être bâtie sur une élévation de terrain, car sa façade et son côté nord dominaient hardiment l'enchevêtrement des toits qui l'entouraient. D'un aspect très austère, elle semblait être construite en pierre. Elle appartenait au style néo-gothique et devait dater de 1810 ou 1815. À mesure que les mois s'écoulaient, Blake contemplait avec un intérêt toujours croissant cette construction rébarbative. Les fenêtres n'étant jamais éclairées, il en avait conclu que l'église devait être désaffectée. Plus il la regardait, plus son imagination s'échauffait et lui inspirait des conceptions bizarres. Il en vint à croire qu'une aura de désolation planait sur ce lieu, si bien que même les pigeons et les hirondelles évitaient son toit enfumé. Il consigna dans son journal que de grands vols d'oiseaux entouraient tous les autres clochers de la ville, à l'exception de celui-là. Au printemps, Blake fut en proie à une agitation profonde. Il avait commencé un roman basé sur une prétendue survivance du culte des sorcières dans le Maine, mais il était incapable d'en continuer la rédaction. Il s'absorbait de plus en plus dans la contemplation du farouche clocher dont s'écartaient les oiseaux et restait aveugle à la beauté des feuilles délicates nouvellement écloses sur les arbres du jardin. C'est alors que lui vint pour la première fois l'idée de traverser la ville pour gravir la pente fabuleuse menant à ce monde de rêve. À la fin avril, peu de temps avant la date de la nuit de Valpurgis, Blake se mit en route vers l'inconnu. Après avoir parcouru les rues et les places de la ville basse, il arriva enfin à l'avenue montante, bordée de perrons de pierre usée, de porches d'oryx affaissés et de coupoles de verre encrassés, qui devaient le conduire au terme de son expédition. Bientôt, il remarqua les visages basanés des passants et les enseignes en langues étrangères au-dessus des boutiques. Il ne put trouver nulle part les objets qu'il avait discernés de loin grâce à ses jumelles, et il en vint à se demander, une fois de plus, si Federal Hill n'appartenait pas au domaine des rêves. De temps en temps apparaissait la façade lépreuse d'une église ou d'un clocher croulant, mais il ne voyait jamais la noire bâtisse qu'il cherchait. Il demanda à un commerçant où se trouvait une grande église de pierre. L'homme répondit en souriant qu'il n'en avait jamais entendu parler. À mesure que Blake montait, le labyrinthe des ruelles devenait de plus en plus étrange. Soudain, un clocher noir se détacha sur le ciel nuageux à sa gauche. Blake comprit qu'il touchait au but et se plongea dans le labyrinthe de ruelles sordides partant de l'avenue.
Chez Lovecraft, le décor urbain est profondément ambivalent. C'est au départ le foyer du personnage principal, un endroit où il se sent bien, mais c'est aussi l'endroit où il fera l'expérience de l'occulte. Cela correspond à ce qui est caché et qui ne se révélera qu'au prix de certains sacrifices. Un tel domaine n'est bien sûr réservé qu'aux initiés. Ici, Blake s'intéresse à la survivance du culte des sorcières dans sa région, pour le livre qu'il écrit. Décidant d'explorer la ville, il va s'enfoncer dans un véritable cauchemar et courir à sa perte. Déambuler dans une ville façonnée par Lovecraft n'a donc rien d'une partie de plaisir. Alors à présent, dépêchons-nous de fuir ce lugubre dédale, car si dans la nuit, tous les chats sont gris, chez Lovecraft, tout mène à la folie. Poursuivons à présent notre itinéraire, cette fois dans les tréfonds urbains et souterrains d'une ville particulièrement secrète et inquiétante. Cette ville se trouve dans le roman Cabal, publié en 1988 par l'auteur américain Clive Barker, que vous connaissez peut-être pour son roman Hellraiser, également adapté au cinéma. On suit ici les aventures de Boone, le personnage principal, qui dès le début du roman va être confronté à l'univers de l'internement psychiatrique. Très vite, il perd pied et se lance à la recherche d'une ville dont l'emplacement demeure confidentiel. Cette ville se nomme Midian. Constatant qu'il n'a plus sa place dans le monde qu'il connaît, notre personnage principal part en quête d'un lieu où il pourra poursuivre son existence. Mais pourquoi choisir cette ville plutôt qu'une autre ? Cela s'explique par sa particularité. Elle est un refuge où les monstres se regroupent pour vivre en communauté. Ce sont des créatures à l'apparence effrayante et dont l'écart avec les normes sociétales est frappant. Elles sont souvent décrites comme étant hybrides, avec à la fois des caractéristiques humaines, mais aussi animales. Notre personnage principal va donc rejoindre les rangs de ses habitants, qui se définissent comme étant les enfants de la nuit. Dans ce contexte, le nom de la ville, qui n'a pas été choisi au hasard, prend tout son sens. Il signifie « querelle » en hébreu, et fait probablement référence à Midian ou Madian, présent dans l'Ancien Testament, un territoire au sein duquel Moïse est accueilli après avoir fui l'Égypte. Au premier abord, cette ville ressemble à tout ce qu'il y a de plus banal. Mais à y regarder de plus près, on remarque qu'en fait, personne n'y habite véritablement. Le décor a des allures de ville fantôme. Les lumières des habitants sont inexistantes. Y a-t-il une panne d'électricité ? Pas du tout. Ces habitants en ont déserté la surface et ont investi l'espace souterrain. La ville est bel et bien désertée, le vide y est palpable. Mais contrairement à la ville fantôme, classique, il n'y a aucun signe de délabrement ou de ruine. Aucun signe matériel de décrépitude. C'est en réalité la désertion des lieux qui crée l'impression d'abandon. Ce territoire urbain, qui n'est pas censé être vacant, désoriente profondément le personnage principal et le lecteur, instaurant un climat d'appréhension. Après cette escale monstrueuse, je vous propose d'arpenter les rues désertes de la ville de San Francisco, décrite par Philip K. Dick dans son roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » publié en 1966 et renommé « Blade Runner » après le succès de son adaptation au cinéma. Dans ce roman post-apocalyptique, la Terre, qui était ravagée par une guerre nucléaire, n'abrite plus qu'une poignée d'êtres humains, une grande partie de la population ayant émigré sur la planète Mars. Certains y restent par conviction personnelle, d'autres y sont contraints. Dans ce contexte, les animaux ont presque entièrement disparu de la surface du globe. Quelques spécimens y subsistent toutefois. Rares et précieux, ils se vendent à prix d'or aux derniers habitants de la Terre, dont la reconnaissance sociale passe bien souvent par la possession d'un animal sentient. Nous découvrons donc ici un monde où la faune et la flore ont été décimées. L'univers de K. Dick, qui se rapproche d'une écofiction apocalyptique, encourage ici le lecteur à se questionner sur le modèle de développement sociétal le plus souhaitable. En particulier parce que la catastrophe ayant mené à la destruction de l'environnement est non seulement d'origine humaine, mais surtout, elle relève de la responsabilité collective. C'est l'inconscience humaine qui est ici dénoncée. Pour faciliter le processus de colonisation de Mars, des androïdes ont été mis au point et offerts à chaque migrant. Le héros de ce récit traque sur Terre certains androïdes, les Nexus 6, qui se sont illégalement échappés de la planète Mars et qui se font passer pour des êtres humains. Dans ce monde ravagé, les habitants de la ville de San Francisco tentent, tant bien que mal, de mener une existence normale. Mais leur qualité de vie est irrémédiablement altérée. L'air de la ville est grisâtre et sale, car chargé de particules radioactives, qui masque le soleil. L'odeur y est nauséabonde. Ils n'ont accès qu'à de la nourriture artificielle et n'entretiennent que de rares relations avec leurs congénères. Dans ce contexte, la ville a bien changé. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les derniers habitants de la ville, et plus largement de la Terre, se regroupent dans de grands ensembles urbains, épurés de toute vie. Leurs logements sont vétustes, composés de mobilier et d'équipements endommagés. Ces citadins contraints souffrent du silence qui règne dans leur existence. Ils sont bien souvent seuls à occuper un immeuble entier. Pour faire face à la solitude et à l'isolement, ils utilisent des boîtes à empathie, des appareils permettant de régler leur humeur, mais aussi de se connecter aux autres de se fondre dans leurs pensées et de pénétrer leur individualité. Mais comment vivre véritablement dans une ville où ne se succèdent que rues dépeuplées et bâtiments dégradés? Les débris d'une humanité passée sont visibles partout et rappellent les échecs de l'ancien monde. Cet habitat déserté n'a plus rien à offrir à ses habitants, à l'exception d'une vie résiduelle et résignée. Je vous laisse avec la lecture d'un extrait où l'un des personnages principaux, John Isidore, souffre du silence du monde.
Silence. Les murs, le plancher, les boiseries sont hantées de silence. De quoi le broyer comme une gigantesque meule. Le silence suintait du parquet à travers la vieille moquette grise en lambeaux. Il suintait des appareils cassés ou à demi-cassés qui équipaient la cuisine, des appareils qui n'avaient jamais fonctionné depuis l'emménagement d'Isidore. Du grand lampadaire inutile de la salle de séjour, des coulées de silence s'étalaient par nappes entières à la rencontre d'autres coulées vides descendues du plafond constellées de chiures de mouches. Le silence s'arrangeait, en fait, pour jaillir de partout comme s'il avait voulu supplanter toute chose. Ainsi ne se lançait-il pas seulement à l'assaut des oreilles d'Isidore, mais encore de ses yeux. Debout devant son récepteur de télé inerte, il eut soudain le sentiment que le silence était visible et aussi, mais à sa manière, vivant. Vivant. Ce n'était pas la première fois, loin de là, qu'il ressentait cette austère approche. Le silence entrait alors par effraction, avec violence, sans aucune subtilité, incapable, à l'évidence, de la moindre patience. Le silence du monde ne pouvait plus retenir sa soif de tout engloutir. Plus maintenant. Maintenant qu'il avait presque partie gagnée.
Contrairement aux ruines antiques, qui plongent l'écrivain romantique dans une forme de mélancolie quant aux splendeurs passées de l'Antiquité, l'univers post-apocalyptique de Kadic est synonyme de vacuité. Il ne suscite ni rêverie, ni exaltation. Dans ce roman, la ville est un lieu où s'installe l'imprésence, telle que théorisée par le philosophe français Jacques Derrida. Cela correspond à l'être sans présence, composé de vestiges qui rappellent ce qui n'est plus. On sent que Kadic aime bien jouer avec cette thématique. Elle est d'ailleurs au cœur d'une de ses nouvelles, Le banlieusard, The Commuter en anglais. Littéralement, celui qui fait de longs trajets quotidiens entre chez lui et son travail. On retrouve dans cette nouvelle un certain Ernest Critchett, un employé qui prend le train quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail et qui souhaite renouveler son abonnement habituel au guichet de la gare. L'employé ferroviaire qui le renseigne se voit alors contraint de lui annoncer que sa ville, Macon Heights, n'existe en réalité sur aucune carte et n'est desservie par aucun train. Il part alors à la recherche de cette mystérieuse ville. À présent, faisons une halte en l'an 2381. Que diriez-vous d'emménager dans une ville entièrement verticale de plusieurs centaines de kilomètres? La verticalité urbaine est une thématique particulièrement prolifique en science-fiction. Qu'il s'agisse de films, de séries ou de romans, le futur donne à voir d'immenses immeubles, insérés dans des univers tour à tour utopiques ou dystopiques. Les caractéristiques de nos villes y sont souvent exacerbées. Perte d'identité, répartition des individus en fonction de leur appartenance sociale, entassement et rupture avec la nature. Mais c'est surtout la thématique du roman culte de science-fiction « Les monades urbaines » publié en 1971 par Robert Silverberg. Dans ce récit d'anticipation, qui se déroule dans quelques centaines d'années, les humains sont plus de 70 milliards, évoluant dans de grandes tours autosuffisantes, composées de milliers d'étages, dont ils n'ont pas le droit de sortir. Ce sont des villes verticales, qui comprennent chacune plus de 800 000 habitants, implantées sur la planète Vénus, fraîchement colonisée. Le titre du roman, en version originale, The World Inside, prend donc tout son sens. L'auteur imagine un futur où une importante famine a conduit les sociétés à se réorganiser en libérant l'ensemble des terres agricoles, obligeant les populations à se regrouper dans des villes verticales. Des agriculteurs, aidés de robots jardiniers, sont chargés de cultiver ces terres désormais disponibles, ce qui a permis d'atteindre l'abondance alimentaire. Les monades, aussi appelées constellations urbaines, sont divisées en plusieurs étages ou niveaux, respectivement dédiés à des catégories de population, décideurs, penseurs, ouvriers. L'auteur décrit ici un labyrinthe à la forte ségrégation sociale. Ce cloisonnement a pour objectif de limiter les conflits sociaux. Chacun se voit attribuer un emploi, ainsi qu'une obligation de se marier et de procréer, très jeune, pour satisfaire Dieu, et ce, sans fidélité au sein du couple. Ce roman, empreint de tendance New Age, s'inscrit clairement dans son époque, les années 70. L'usage des drogues y étant un vecteur d'élévation spirituelle et d'accomplissement de soi. Les logements sont également ouverts à tous et ressemblent à des open space. Les rares individus qui contestent le système ou qui veulent en sortir sont appelés des anomos. Ils sont mis à l'écart, reconditionnés ou tués. La contestation est donc sévèrement punie. L'organisation de la monade, dans son ensemble, est d'ailleurs approuvée et justifiée par la majorité de la population, la servitude des monadiens étant quasi volontaire. Ici, l'expansion verticale est une réponse aux défis agricoles et démographiques que rencontre l'humanité. Elle est donc synonyme de progrès. Mais bien qu'elle constitue une solution à un certain nombre de besoins, les nouvelles technologies se révèlent être liberticides. Il s'agit là d'une dystopie, c'est-à-dire une utopie qui vire au cauchemar. À la lecture de ce roman, on peut bien sûr se demander si ce mode d'organisation de l'humanité constitue une forme de prévision. Le récit pourrait ainsi relever de la prospective, c'est-à-dire de l'étude des avenirs possibles. En ce sens, il serait une expérience de pensée exploitable pour penser notre futur. Comme vous le savez, la science-fiction permet généralement de prendre une certaine distance avec les situations rencontrées dans le présent, et c'est bel et bien le cas ici, en raison du contexte futuriste. Les problématiques traitées étaient actuelles dans les années 70, lors de la rédaction du roman, et le sont encore à l'heure actuelle. On peut penser en particulier à l'épuisement des ressources ou à la surpopulation. À noter que les thèmes de la verticalité urbaine et du gigantisme sont loin d'être nouveaux dans les années 70. En 1920 déjà, le russe Eugène Zamiatine explore cela dans son roman satirique de science-fiction, Nous autres. Son récit est centré sur une ville gouvernée par un régime autoritaire. Ses habitants vivent dans des tours de verre sans murs. Ils sont identifiés par des numéros. Ils travaillent et mangent aux horaires prévus par le régime. On suit le parcours du héros D-503, un dissident qui essaie de détruire le système en place. Plus récemment, c'est l'autrice française Catherine Dufour qui s'est emparée de cette thématique dans Le goût de l'immortalité, un roman cyberpunk où les habitants de la Terre, essentiellement urbains, s'entassent dans de grandes tours. On y découvre un futur urbain, ravagé par la pollution et obnubilé par la technologie et les modifications génétiques. Notre voyage urbain s'achève ici. Des cités verticales gigantesques aux souterrains inquiétants, nous avons visité plusieurs villes littéraires profondément différentes les unes des autres. Notre monde, majoritairement urbain, questionne. Il était donc normal que la littérature se soit emparée de cette thématique. À la lumière des œuvres que nous avons évoquées, on peut constater que la ville, qui est un thème récurrent des littératures de l'imaginaire, a différentes fonctions. Elle peut être le point d'ancrage du fantastique, le lieu précis où se révèlent les phénomènes occultes pour un héros curieux, en quête de compréhension. Il en résulte généralement la destruction et l'aliénation. Mais elle est également un sujet inépuisable d'exploration pour les auteurs de science-fiction, permettant de nous interroger sur le devenir de nos sociétés modernes et de notre mode d'organisation, notamment grâce à la création d'univers post-terrestres. L'angoisse environnementale y est palpable, témoignant d'une forme d'inquiétude quant à l'inconscience humaine collective. Avant de clôturer cet épisode, je tiens également à vous donner brièvement mon avis sur les œuvres citées, que j'ai lues bien sûr en totalité. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le roman de Philip K. Dick, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?», qui n'a pour ainsi dire pas grand-chose à voir avec son adaptation cinématographique de 1982. Dépaysement, suspense et humour caustique sont au rendez-vous dans ce thriller d'anticipation. De même pour les nouvelles du même auteur que j'ai lues pour préparer cet épisode. J'ai également apprécié Cabal de Clive Barker pour son rythme soutenu et son côté kitsch et outrancier par moments. J'étais toutefois déçue par mes lectures de Lovecraft, mais je vais quand même persister et lire d'autres nouvelles de cet auteur pour me faire une idée plus globale de son œuvre. Pour finir, j'ai apprécié le concept des monades urbaines de Robert Silverberg, mais je l'ai trouvé particulièrement daté et un peu trop ancré dans son époque. Je vous invite bien sûr à lire l'ensemble de ses œuvres pour vous faire votre propre opinion. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez pris le temps d'écouter le podcast jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur la page Instagram Les Courbes Graciles quelle destination vous a le plus intéressé et quelle œuvre vous fait le plus envie. Bonne lecture et à bientôt !